Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
La jeunesse française serait paresseuse, égoïste, dépolitisée. En 2012, il n'y a pas si longtemps après tout, un sondage Ipsos pour Le Monde montrait en tout cas que c'était cette vision négative que les Français avaient de leur jeunesse. Les Français étaient 63% à juger les jeunes égoïstes et 53% les jugeaient paresseux et intolérants. Mais nos invités ce matin vont sûrement pouvoir nous montrer le contraire, puisque France Culture propose aujourd'hui, à l'occasion d'écouter le printemps, une journée spéciale sur l'engagement des jeunes générations. Deuxième volet de ces journées écoutées le printemps, quelques-unes de nos jeunes pousses de la vie politique sont parmi nous dans les matins de France Culture aujourd'hui. Ils ont entre 21 et 34 ans. 34 ans, ça commence déjà quand même à sentir le soufre. Sont rattachés ou non à des partis, bénévoles ou rémunérés, mais sont en tout cas très engagés en politique. Bonjour Rosalie Salin. Vous avez 27 ans, vous êtes porte-parole, vous, de la Fédération des jeunes écologistes.
Oui, tout à fait.
Vous bonjour. Confirmez. Bonjour à vous. Laura Slimani.
Bonjour.
25 ans, vous êtes présidente, vous, du mouvement des jeunes socialistes.
Oui.
Présidente des jeunes socialistes européens.
Tout à fait.
Et conseillère municipale déléguée à Rouen.
Donc, c'est ça.
Déjà quand même très dedans.
Hein dedans.
Ouais, ouais. Franck Alizio. Bonjour. Bonjour. Vous avez 34 ans, c'est vous le seigneur de l'étape, hein, et vous êtes président, vous, des jeunes actifs.
Oui, qui sont les trentenaires de l'UMP.
Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de l'UMP ou des Républicains, là?
Jusqu'à samedi à peu près 11h, c'est-à-dire la publication des résultats, il faut dire l'UMP.
Ouais. Et pourquoi c'est quoi cette drôle d'appellation des jeunes actifs?
Parce que... Bah, c'est-à-dire que nous, on a tellement de jeunes qu'on a deux mouvements de jeunes. On a les jeunes populaires qui sont les étudiants et les lycéens, enfin les lycéens et les étudiants à l'UMP, et les jeunes actifs qui sont les trentenaires, c'est-à-dire les jeunes actifs. Parce qu'on considère que les deux préoccupations sont différentes, et donc ces deux mouvements cumulés ont 40 000 adhérents.
Gaëtan Dussaucé, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 21 ans et vous êtes directeur national du Front National de la Jeunesse.
Tout à fait. Voilà,
pas de mandat encore, pas de...
Vous êtes, c'est en, pas c'est pour en, l'instant, c'est on en verra cours. Plus tard.
Et puis Maxime Werner, alors, c'est quoi ce t-shirt Kanye West là?
Moi, j'adore Kanye West.
Ouais. C'est pas sérieux quand on fait de la politique. Vous imaginez un politique faire de la télé ou venir avec... Ça part très mal votre histoire.
Mais je connais mieux Kanye West que certains qui mettent des t-shirts chez Guevara. Hein.
Ah, pas mal, pas mal. Bah, vous avez 25 ans, donc, et toutes vos dents, et vous êtes d'ores et déjà candidat aux prochaines élections présidentielles.
Oui.
Ah oui, et vous pensez que vous allez y arriver comme ça, avec un t-shirt Kanye West?
Et pourquoi pas?
Pour 2017.
Ouais. Ouais.
Vous étiez déjà d'ailleurs candidat en 2012, on ne s'en souvient pas vraiment, hein, mais quand même vous aviez après
pourtant,
tout...
Pourtant, j'étais déjà venu chez vous.
Et vous aviez, oui, bien sûr, mais bon, qui sait si les auditeurs se souviennent de vous. Vous aviez, c'était à 142 signatures.
Oui, j'ai eu 358 parrainages de maire.
Voilà, et vous présidez depuis 2010 l'association des Jeunes de France.
Des jeunes, mais des jeunes, c'est aussi. Ouais.
Ça va, Béatrice Gimelin?
Je suis.
Voilà, alors avec Frédéric Bétézo, elle a décidé qu'il fallait tout de même, un sage.
Avec les cheveux blancs, j'ai le droit.
Bon, oui, voilà. Non, mais voilà. Alors, Béatrice Gimelin, jeune Jean, je vous la présente. C'est une très grande géographe, directrice et fondatrice de la revue Hérodote, professeure des universités, et qui sera là un peu peut-être pour vous poser quelques questions, arbitrer et qui sait tester quelles sont vos connaissances. Parce que je crois quoi, vous diriez quoi, Béatrice Gimelin, à ces jeunes gens aujourd'hui, que la politique, un des meilleurs atouts, si l'on veut faire de la politique, c'est quoi? C'est de savoir ce que c'est que le territoire français, ce que sont ces rivières, ces départements.
Avant ça, je dirais que c'est savoir écouter les autres. C'est la première qualité si on veut faire de la politique. La deuxième, c'est d'avoir des convictions, mais de connaître le doute. Parce qu'autrement, on est mal parti si on est absolument dans une assurance totale. Et la troisième, c'est savoir que la diversité de la France est un extraordinaire atout et qu'on ne peut pas tenir un discours trop formaté du nord au sud et d'est en ouest, même s'il peut y avoir de bonnes bases.
Pourquoi il est trop formaté aujourd'hui le discours ?
Par certaines façons, oui. C'est-à-dire qu'on est très soucieux de plaire à un Français global qui n'existe pas. Voilà, et qu'il faut donc essayer. À la limite, un jeune chômeur du sud de la France, c'est pas la même chose qu'un jeune chômeur du bassin minier.
Et pourquoi ?
Parce que c'est des formations socioculturelles.
La misère est moins terrible au soleil.
Si vous voulez. C'est pas faux d'ailleurs, hein. Mais c'est les formations socioculturelles et les formations sociopolitiques ne sont pas les mêmes. Les histoires ne sont pas les mêmes. Les perspectives non plus. Et donc, il faut essayer de comprendre comment on peut s'adresser, remobiliser et parfois même rendre dignité à des jeunes qui sont dans des situations très, très, très différentes. Je pense qu'une connaissance profonde du territoire et de ces différents éléments de société est absolument indispensable.
Voilà, alors bien sûr, Béatrice, vous intervenez quand vous voulez d'ici 9h avec nos invités. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, entre Panthéon, Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonioz, Germaine Tillion et Jean Zay, la France célèbre ses grands hommes.
Et femmes.
Oui, mais non, mais là, on peut dire que hommes, c'est de façon générique.
Pour une fois qu'il y a des femmes.
Non, pas pour une fois, il y en a déjà eu.
Alors,
très très peu.
Qui aujourd'hui va suivre cet événement et pourquoi ?
Ah, moi je vais le suivre.
Maxime Werner.
Parce que il me semble extrêmement intéressant de marquer justement la mémoire, on en parlait à l'instant. Évidemment, on est de très jeunes élus pour certains, engagés pour d'autres, avec parfois pas du tout la vocation d'ailleurs d'être élu, mais de faire remonter cette diversité, ces idées. Mais on s'inscrit aussi dans cet héritage qu'est l'engagement en France. Et vous parliez là de Madame Tillion, son engagement par exemple en Algérie est quelque chose qui doit nous permettre de re-questionner, au-delà de cette question de diversité, ce qu'a pu être la République. Et nous, malgré évidemment le fait générationnel et aussi le fait que notre génération a un rapport à la politique complètement différent, on doit aussi ne pas oublier de faire ce lien-là entre une histoire politique. Je lisais en ce moment tout le grand débat sur le roman national, etc. On est quand même très éloigné de ça quand aujourd'hui on a 5 millions de personnes, même voire 6, qui ne travaillent pas assez, comme ils le voudraient. Quand on a autant de jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune qualification ni formation. Et évidemment, on n'est pas en train de recréer un roman national, nous, à 5, autour de la table de France Culture. Cela étant, on doit nécessairement se reposer toutes ces grandes questions que les générations qui nous ont précédés, dont vous faites partie, se sont posées avant nous.
Oui, c'est ça. Continue comme ça et vous allez mal finir l'émission. Je n'ai tout de même pas encore 112 ans. Tiens, je voudrais poser la question à Gaëtan Dussaucier. Vous êtes vous directeur du Front National de la Jeunesse, mais vous étiez auparavant étudiant en philosophie et en lettres modernes à la Sorbonne. Vous avez commencé un master de philosophie et puis vous avez arrêté après votre nomination à la tête du FNJ pour vous y consacrer à temps plein au Front National et vous êtes aujourd'hui salarié du Front National. Que pensez-vous, vous, aujourd'hui et quel serait le héros célébré au Panthéon aujourd'hui que vous retiendriez, je sais pas, au hasard, peut-être celui Jean Zay qui fut assassiné par la milice française, par les Français et non pas même par les Allemands?
Ouais, je pense pas qu'il y ait un choix à faire parmi ces héros de la nation française qui vont rentrer au Panthéon aujourd'hui. Je crois qu'en réalité, il y a un véritable héritage, un souvenir qu'on doit avoir de l'action de ces jeunes gens qui ont su s'engager parce qu'ils avaient finalement le patriotisme chevillé au corps. Ils avaient mal de voir la France envahie. La France défaite face aux Allemands, face en plus à une idéologie cruelle qui était l'idéologie du nazisme au cours du XXe siècle. Donc très clairement, face à cet état de défaite de la France, ils ont su s'engager, ils ont su prendre toute l'énergie qu'il fallait pour aller défendre leur pays. Donc il n'y a pas véritablement de choix à faire parmi ces quatre personnages. Les quatre, par patriotisme, ont toute leur place désormais au Panthéon.
Quelle énergie vous voulez mettre dans votre combat politique et dans un parti dont on sait qu'il n'a pas toujours eu les yeux doux, notamment pour l'histoire de ceux qui seront célébrés aujourd'hui au Panthéon?
Pardon ?
Ben, on sait que les déclarations de Jean-Marie Le Pen sur la Seconde Guerre mondiale ont fait des polémiques, notamment.
Oui, écoutez, est-ce que Jean-Marie Le Pen, depuis le 4 mai dernier, je crois qu'on peut quand même éviter de faire référence à lui lorsque l'on parle du Front National.
On ne peut justement pas éviter, mais je vous pose la question très sans malice, qu'on ne peut évidemment pas éviter de faire référence à Jean-Marie Le Pen, qui est le fondateur du Front National. Est-ce que vous avez envie, par votre engagement au Front National, de marquer une rupture et de dire ce vieux Front National ne m'intéresse pas, je suis sur une autre ligne, sur autre chose, et ce serait cool.
Si vous voulez, lorsqu'un jeune, ce qui est mon cas, adhère à un parti politique, moi j'ai adhéré à 17 ans au Front National. Lorsqu'on adhère à un mouvement politique, évidemment, on s'engage pas pour ce qui s'est passé 20, 30 années avant. On s'engage pour l'avenir, on s'engage pour ce qui va se passer demain. Et on essaye d'influer au maximum, de faire tout en sorte que cet avenir soit meilleur pour demain. Pour nous-mêmes, mais aussi pour nos amis, nos proches et les générations qui vont suivre. Donc très clairement, voilà pourquoi moi je me suis engagé au Front National, aux côtés côté de Marine Le Pen, parce que actuellement, il y a une situation qui est catastrophique en France, sur tous les plans, économiques, sociaux, démocratiques, culturels. Donc très clairement, c'est ou bien on continue vers cette voie-là en maintenant des gouvernements de gauche et de droite à la tête de l'État, ou bien on met en place une alternative politique. Frédéric, c'est ça qui nous donne envie de nous engager.
Frédéric Mettezeau.
Oui, alors notre interlocuteur du Front National vient de parler de l'histoire d'un parti. Je voudrais m'adresser à mes deux voisines, Laura Slimani du Mouvement des Jeunes Socialistes et Rosalie Salin du Mouvement Écologiste, Europe Écologie Les Verts, plus précisément. Laura Slimani appartient à un parti centenaire, hein, la SFIO puis le PS a une très longue histoire politique. Le mouvement écologiste est beaucoup plus récent, il a une trentaine d'années en tant que parti politique. Laura Slimani, socialiste, comment vous assumez cette histoire centenaire, d'une idéologie centenaire aujourd'hui en 2015 ?
Il faut l'assumer parce que cette histoire, elle est porteuse de nombreux progrès pour les Français, pour les Européens également. Il faut l'assumer, mais il ne faut pas que ça soit un poids non plus. Et moi, j'aime quand mon parti il parle de son histoire, mais j'aime aussi quand mon parti il écrit l'histoire.
Et ce qui parfois est
en tout cas un petit peu frustrant, c'est de voir qu'on se réfère beaucoup au passé, mais qu'on a du mal à créer les combats de demain. Et moi, j'aimerais bien parfois qu'on passe un peu plus de temps à parler du combat du travail, par exemple. En ce moment, il y a un débat sur le burn-out à l'Assemblée nationale. C'est important parce que c'est des nouvelles exploitation des salariés. C'est important de parler du burn-out, peut-être plus aujourd'hui que d'autres types d'exploitation.
Socialiste, c'est encore un mot actuel, contemporain, qui parle à la jeunesse et aux jeunes de France ?
Bien sûr, parce que le socialisme, c'est le partage. Et je pense qu'on est dans une société avec des inégalités qui sont extrêmement importantes et dans laquelle, de toute façon, aujourd'hui, il faut partager pour à la fois protéger l'environnement, mais aussi pour permettre à chacun d'avoir un emploi et pour permettre à chacun de vivre dignement. Donc je pense que le socialisme, il est encore plus d'actualité aujourd'hui, peut-être l'écosocialisme, ce qui est quelque chose que chez les jeunes socialistes, on porte, mais aujourd'hui, on n'est plus les seuls.
Et pourtant, on voit que l'UMP veut changer de nom, sans doute le Front National veut-il changer de nom aussi en troquant le Front National pour les Patriotes. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer de nom au Parti Socialiste, comme certains le pensent?
Je pense qu'on peut changer la couverture sans changer l'intérieur, c'est exactement ce qui va se passer à l'UMP, et ils ne trompent personne, voilà.
Rosalie Salin, l'écologie, pour le coup, c'est une idée assez contemporaine qui a une quarantaine d'années en tant que pensée. C'est plus facile de se tourner vers l'avenir quand on appartient à un parti assez jeune.
Les écologistes ont toujours porté des idées d'avant-garde. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui les luttes qui ont été portées historiquement dans les années à partir des années 60, aujourd'hui sont considérées pratiquement comme des acquis aujourd'hui. Hein. Je pense par exemple aux luttes féministes ou bien à des mouvements par exemple contre le nucléaire, hein, même si aujourd'hui il faut encore beaucoup se battre, on se rend compte que les résistances sont beaucoup dans les corporations au final. Mais en ce jour de panthéonisation de la résistance, je pense qu'aussi il y a un héritage réellement important, hein, sur lequel en tant qu'écologiste on peut se baser, hein, pour continuer à faire, non pas à regarder cette mémoire-là comme ça et à la visiter de temps en temps une fois par an, mais à la faire vivre à l'avenir, c'est tout simplement cette idée de résistance, cette idée de désobéissance de gens qui se sont battus pour leurs idées au moment où ils n'avaient plus de liberté d'expression, ils n'avaient plus le droit à la parole, ils considéraient que la démocratie était spoilée. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de mouvements écologistes qui peuvent tout à fait, qui se considèrent comme des résistants, quand on parle des zadistes, quand on parle d'autres collectifs de désobéissance civile, comme les faucheurs volontaires par exemple. Ce sont des gens qui se battent pour leurs idées, et je pense que pour le coup ce sont des luttes non seulement respectables, mais en plus, à mon avis, d'avant-garde et progressistes.
Ding dong, il n'y a pas un petit abus de langage là, Béatrice Gimelin ?
Si, il y a un petit abus de langage, parce que résister...
Vous n'allez pas vous en sortir comme ça.
Résister sous le nazisme, avec les risques qu'on prenait, c'est pas du tout résister dans une société aussi démocratique que la nôtre, où quand même la liberté d'expression est grande, où il y a quand même un certain nombre de débats démocratiques important, où on prend des décisions qui sont des décisions prises par des élus représentatifs, qu'après elles soient contestées et qu'elles soient contestées sous des formes de violence, ça fait au moins débat, et je n'irai pas pour ma part jusqu'à parler des zadistes, par exemple, du barrage de Stévin, c'est équivalent à des résistants de ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale.
Vous avez raison, mais moi je voudrais quand même dire que avec la nouvelle loi sur le renseignement qui arrive de nos jours, clairement, tous les militants écologistes, hein, qui sont pratiquement le pire ennemi du régime social libéral actuellement en place, puisqu'on se bat pour des valeurs qui clairement ne sont pas les siennes. Aujourd'hui, on se retrouve à être fiché par les RG. Et effectivement, nous, ce que je vous dis, c'est que ma génération et notre mouvement, on a vraiment peur, en tout cas, de potentiellement de se voir restreindre nos libertés de déplacement.
Ouais. Je vous signale qu'à côté, votre collègue du Parti Socialiste commence à tordre le nez. Mais nous n'avons pas entendu encore, et il faut bien qu'on entende, Franck Alizio, président donc des Jeunes Actifs des Républicains, de l'UMP.
Oui, par rapport à ce que vous disiez sur la journée, la panthéonisation d'aujourd'hui, quelque part c'est une journée, c'est un moment où on se rappelle ce qu'est la France, ce qu'est l'histoire de France, où on est en quelque sorte fier d'être français, fier de l'histoire de notre pays, où on fait pendant une journée vivre le récit national, le fameux récit national, moi j'ai même pas peur de parler de roman national, qui aujourd'hui est de moins en moins enseigné avec cette histoire qu'on dénonce d'ailleurs à la vision de Najat Belkacem d'une histoire désincarnée et sans chronologie où les enfants se perdent. Aujourd'hui, ça nous permet de retrouver la France telle qu'on l'aime et les grands moments de notre histoire. Ce qu'on fait en s'appelant probablement les Républicains, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on déclare et on réaffirme notre attachement à des valeurs et on rattache notre projet politique, le projet politique de notre famille, aux Républicains, c'est-à-dire aux valeurs auxquelles on se réfère. Oui, et lorsque j'entends Laura Slimani dire...
C'est un petit côté série américaine quand même, les Républicains.
Quand j'entends Laura Slimani dire qu'on ne trompe personne, je crois que le Parti Socialiste, pour le coup, dont le projet et l'exécution du projet aujourd'hui, la gestion de la France, n'a plus rien de social, plus rien en lien avec le peuple, c'est quelque chose d'extraordinaire. S'il y a quelqu'un qui ment, c'est bien vous. La référence... Juste pour mon collègue, pour mon collègue du Front National.
Et d'ailleurs, c'est franchement... marrant, vous êtes passé comme vous placez dans les plateaux de télévision, mais on ne l'a pas fait exprès. C'est-à-dire qu'en fait, l'UMP est à côté du Front National et le socialiste est à côté de l'écologiste.
On se parlait sur France 2, un sort d'élection. On partage un certain nombre de choses.
Juste pour terminer sur mon collègue du Front qui dit les Américains, enfin moi je veux bien, mais aujourd'hui, République, c'est plus attaché à la France, c'est plus attaché à la République française qu'aux États-Unis. Il n'y a pas de République américaine, les États-Unis ne se vivent pas comme une République. C'est la France qui se vit.
Justement, est-ce qu'il fallait dans ce cas-là limiter le terme à un parti ? La justice a dit que ce n'est pas un problème, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une forme d'appropriation ou de privatisation du mot républicain ?
Les différentes formations de notre famille politique au sens large se sont toujours référées à cela. C'est pas nous, c'est l'histoire de notre famille politique. Le Parti Républicain, je ne l'apprenais pas, c'était l'ancêtre de la démocratie libérale, les libéraux. Voilà, le Rassemblement pour la République. La République a toujours été au cœur de notre ADN, a toujours été dans les noms de nos
La République a été au cœur d'à peu près tous les gens qui vont entrer
non,
au Panthéon.
Non, c'est pas vrai, le Parti Socialiste n'a jamais eu le mot République dans son intitulé. Le Front National non plus, les partis communistes non plus. Il y a toujours eu un autre élément qui a été mis en avant. Voilà,
intervention de notre sage Béatrice Gimelin.
Oui, la République, c'est un système politique, avant toute chose. Bon.
C'est un système de valeurs aussi.
C'est d'abord un système politique. La République, c'est ce qui s'opposait à la monarchie. C'est donc un système politique. Ce qui représente un certain nombre de valeurs et d'engagements, et on le voit dans les combats, y compris de ces grands résistants qui rentrent au Panthéon, c'est la nation. Ce qu'ils ont défendu, c'est la nation, c'est la patrie, c'est les valeurs de la liberté des citoyens de 1789. C'est ça, la force. Que vous appeliez les Républicains, moi je pense que ça ne change pas grand-chose. Vous ne serez pas propriétaire de la République et c'est heureux, c'est pas plus que d'autres seront propriétaires
Ni les Verts ne sont propriétaires de la République verte. Hein,
exactement.
J'aime bien la vision verte personnellement.
Mais on est bien d'accord.
Donc, ni le Front National de la Nation.
Bien sûr.
Ni les Chinois de la République Populaire.
Voilà, exactement. Donc vous n'avez pas et quant à dire les Américains pour la République pour eux, c'est pas comme pour nous, la République c'est la France. Non, on ne peut pas dire une chose comme ça, c'est pas sérieux.
Enfin tombé sous les crosses avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit.
Un extrait, bien sûr, du discours d'André Malraux aujourd'hui, accueillant Jean Moulin au Panthéon. Entre ici, Brice Couturier.
J'y suis déjà.
Que nous direz-vous à 8h15 pour le débat?
Je vous citerai un essayiste britannique, tiens. Ça va changer. John Harris, qui estimait récemment dans la revue Prospect que si le Labour de Miliband avait échoué aux élections, c'est parce qu'il s'était mépris sur les attentes de l'électorat. Je le cite, il croyait que les gens voulaient qu'on fasse des choses pour eux, alors qu'ils voulaient qu'on les fasse avec eux. Alors la question que j'aimerais poser à vos jeunes intervenants, c'est jusqu'où Internet et ses nouveaux usages peuvent-ils transformer notre rapport à l'État et par conséquent à la politique?
Merci, à 8h15 donc.
Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück.
Voilà, bien sûr, cette voix d'André Malraux, 8h01.